Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Le tueur d'Uvalde au Texas avait prémédité l'attaque d'une école primaire. 19 enfants ont été tués. L'Amérique est sous le choc. Le lobby pro-armes évoque un criminel isolé et dérangé. Joe Biden doit s'exprimer dans quelques minutes. Pas d'enquête sur Damien Abad, visé par des accusations de viol. Le parquet de Paris manque d'éléments sur l'identité de la victime présumée du ministre des Solidarités. Pas de burkini à la piscine. La justice suspend l'autorisation accordée par la ville de Grenoble, votée à la demande du maire écologiste Éric Piolle. On ira à Grenoble dans un instant. Rouler un tout petit peu trop vite ne vous coûtera peut-être bientôt plus aucun point sur votre permis. Le gouvernement est en train d'y réfléchir à la colère des associations de victimes de la route. Le temps demain alternera entre grisaille et éclaircie avec de l'instabilité dans le sud-est. L'invité politique à 22h20, Jonas Sadad, candidat Les Républicains en Seine-Maritime et ancien porte-parole de Valérie Pécresse. Et puis juste avant la libre antenne, coup d'œil au gros titre des quotidiens demain matin.
Europe 1.
Il est temps de dire « ça suffit ». Comment ne pas partager les mots du pape François après la tuerie d'Uvalde au Texas? 19 enfants ont été tués au fusil d'assaut, ils n'avaient pas 10 ans. Deux institutrices aussi ont été tués par cet adolescent de 18 ans, finalement abattu par la police. Nicolas Pineau, vous êtes aux États-Unis pour Europe 1 et vous avez plus d'éléments sur le parcours du tueur.
Oui, c'est une folie meurtrière qui a duré une trentaine de minutes. Le point de départ pour le tueur, Salvador Ramos, c'est le domicile de sa grand-mère avec laquelle il se dispute. Il lui tire une balle dans la tête, mais celle-ci parvient à donner l'alerte et se réfugie chez des voisins. Elle est aujourd'hui dans un état critique. Le tireur va ensuite prendre la route et se dirige vers l'école primaire, située à moins d'un kilomètre. C'est là qu'il commet son massacre. Avec un fusil d'assaut, il se barricade dans une salle de classe, tuant les 21 personnes à l'intérieur. On sait que le jeune tueur avait acheté légalement ses deux fusils d'assaut et des centaines de balles, juste après son 18e anniversaire. Décrit comme solitaire, il était fasciné par les armes et avait laissé des messages menaçants sur les réseaux sociaux dernièrement.
Nicolas, cette nouvelle tuerie de masse dans une école américaine soulève une immense émotion aux États-Unis. Les Américains demandent des comptes.
Oui, le visage des jeunes victimes et de leurs enseignantes s'affiche un peu partout. Les sportifs et les stars de Hollywood réagissent également et demandent du changement. Tout à l'heure, le gouverneur du Texas a été pris à partie lors d'une conférence de presse par Beto O'Rourke, l'un de ses adversaires démocrates. Échange tendu.
C'est de votre faute. Jusqu'à ce que vous vous décidiez à changer les choses, ça continuera. Quelqu'un doit se lever pour défendre les enfants du Texas, ou sinon ils continueront à mourir comme à Uvalde.
Cible des critiques également, la NRA, puissante association pro-armes, botte en touche et dénonce, je cite, « l'acte d'un criminel isolé et dérangé ».
Nicolas Pineau, le correspondant d'Europe 1 à Washington, le gouverneur du Texas dont vous parliez à l'instant, le républicain Greg Abbott, a souligné dans sa conférence de presse le courage des forces de l'ordre. D'autres élus républicains du Texas ont des solutions contre ces fusillades. Le sénateur Ted Cruz, par exemple, il plaide pour davantage de policiers aux abords des écoles, tandis que Ken Paxton, le procureur général du Texas, propose lui d'armer les enseignants, des institutrices et instituteurs pistolets à la ceinture. Les violences par arme à feu aux États-Unis, c'est plus de 40 000 morts par an. Mais pour tous les Américains qui le défendent, eh bien le port d'armes, c'est quelque chose de sacré. C'est inscrit dans la Constitution américaine, le deuxième amendement qui garantit à tout citoyen le droit de détenir des armes. Alors pourquoi rien ne change et pourquoi rien ne changera malgré les fusillades quotidiennes? Réponse de Marie-Christine Bonzon, politologue et spécialiste des États-Unis.
En ce moment, la raison pour laquelle, ou l'une des grandes raisons pour laquelle on n'avance pas au Congrès, c'est que on a des objections, je dirais philosophiques, idéologiques de la part des républicains à une restriction du droit aux armes à feu. Et du côté des démocrates, on a des hésitations quasiment politiciennes, si vous voulez. On approche des élections de mi-mandat en novembre et de nombreux sénateurs démocrates en particulier se rappellent que en 2013 et en 2014, ils avaient perdu des sièges au Sénat après avoir voté quelques petites réformes à la suite de la tuerie de l'école maternelle de Sandy Hook dans le Connecticut.
Et Sandy Hook, une autre tuerie dans une école primaire américaine qui avait fait 28 morts, dont 20 enfants. C'était en 2012. Marie-Christine Bonzon répondait à Solène Leroux. Malgré cette tuerie de l'école primaire d'Uvalde, Donald Trump fait savoir qu'il va maintenir son discours devant l'assemblée annuelle de la NRA, le plus puissant lobby américain pro-armes, et qui se réunit ce vendredi au Texas. Pas du burkini à la piscine. La justice administrative vient de suspendre la décision de la ville de Grenoble, votée de justesse à l'initiative du maire écologiste Éric Piolle et qui autorisait justement le port du burkini dans les piscines municipales. Cette mesure devait entrer en vigueur le 1er juin, Jean-Luc Boujon, mais la justice a dit non.
Oh ben c'est un véritable camouflet pour le maire de Grenoble qui s'était engagé personnellement dans ce combat et qui donc avait fait voter il y a 10 jours cette délibération modifiant le règlement des piscines et autorisant le burkini. En fait, le tribunal administratif a estimé que ce nouveau règlement portait atteinte à la neutralité du service public en ce qu'il permettait aux usagers de déroger à l'obligation générale de porter des tenues ajustées près du corps et cela dans un but religieux. Conséquence, eh bien, cette délibération est suspendue et le burkini ne sera pas autorisé au 1er juin dans les piscines de Grenoble, comme c'était prévu au grand dam de Maître Audévin, l'avocate de la ville de Grenoble.
C'est une grosse déception, c'est contraire à l'application du droit depuis des lustres. Moi j'ai envie de dire que c'est l'écume, le bruit que ça fait autour qui les intéresse et non pas la règle avec l'application du droit, on ira en appel.
Et effectivement, les choses ne vont pas en rester là puisque la ville de Grenoble, via ses avocats, vous venez de l'entendre, a annoncé son intention de faire appel de cette décision devant le Conseil d'État dans les plus brefs délais, estimant que le tribunal administratif de Grenoble a mal lu ce nouveau règlement. La bataille juridique va donc se poursuivre.
Jean-Luc Boujon à Grenoble pour Europe 1. Pas d'enquête à ce stade sur les accusations de viol dont fait l'objet Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique s'étonne vivement de cette décision du parquet de Paris. Arthur Delaborde, comment expliquer qu'aucune enquête ne soit lancée ?
Eh bien, le parquet dit avoir pris cette décision faute d'éléments suffisants permettant d'identifier la victime, celle qui se fait appeler Chloé, 41 ans, citée par Mediapart après son courrier envoyé à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique où elle accuse Damien Abad de viol. Eh bien, ne souhaite pas porter plainte. Or, si elle ne se signale pas à la justice, impossible pour l'autorité judiciaire de l'identifier et donc d'ouvrir une enquête pour l'auditionner. Concernant l'autre jeune femme citée par Mediapart, qui elle se fait appeler Margot, 35 ans, ces deux plaintes déposées en 2012 et 2017 ont été classées sans suite car l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Si elle apporte de nouveaux éléments, l'enquête pourrait éventuellement être rouverte, ce qui ouvrirait la voie a priori à un départ de Damien Abad du gouvernement puisque, je le rappelle, Elisabeth Borne a indiqué que si la justice venait à être saisie, elle en tirerait toutes les conséquences.
Arthur Delaborde, Damien Abad participera donc bien à la réunion du gouvernement convoquée vendredi matin à Matignon. La première ministre Elisabeth Borne va distribuer les feuilles de route des différents ministères et présenter également sa méthode de travail. L'ancien ministre Alain Griset était jugé, lui, ce mercredi pour abus de confiance. Le tribunal correctionnel de Lille a requis 1 an de prison avec sursis à l'encontre de l'ancien ministre délégué au PME. Alain Griset avait démissionné du gouvernement en décembre dernier après sa condamnation pour déclaration incomplète ou mensongère de son patrimoine. Cette fois, la justice lui reproche d'avoir placé de l'argent d'une organisation patronale sur son propre plan d'épargne-action, Maximilien Carlier.
130 000 euros au total qui dormaient sur le compte de la CNAMS du Nord, la Confédération Nationale de l'Artisanat, des Métiers et des Services. Objectif de l'ex-ministre, faire fructifier cette somme grâce à son PEA. « J'ai essayé de rendre service », concède-t-il devant le président du tribunal. « J'ai tout perdu ». Alors depuis, la somme a été rétrocédée à cette organisation patronale. L'ancien chauffeur de taxi a assuré avoir commis une maladresse. La procureure n'est pas du même avis. On a affaire à quelqu'un mu par la cupidité qui voulait s'enrichir. Pour Patrick Maisonneuve, l'avocat d'Alain Griset, son passé au gouvernement n'a pas aidé.
C'est vrai que le fait d'être ministre n'a pas dû favoriser effectivement les choses. Peut-être que l'on pourrait se dire, après tout, l'argent a été totalement restitué à la CNAMS à l'époque, les intérêts ont été réglés. Donc au fond, est-ce qu'il y avait un vrai sujet ? Je ne le crois pas. Je ne le crois toujours pas aujourd'hui.
Alain Griset est un peu notre Bernard Tapie, m'a confié un de ses anciens collègues chauffeur de taxi. Il est malin, mais il a voulu peut-être aller trop vite. L'ex-ministre encourt 1 an de prison. Le jugement sera rendu dans un peu plus d'1 mois, le 28 juin. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Un acte terroriste imminent a été déjoué dans la Drôme. Un jeune homme de 18 ans interpellé par la DGSI, sa garde à vue a démontré qu'il projetait une attaque à l'arme blanche au nom de l'État islamique. Une vidéo d'allégeance a été retrouvée en sa possession. Le suspect a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
C'est une nouvelle qui va sans doute réjouir nombre d'automobilistes, mais qui provoque déjà la colère, en tout cas des associations de lutte contre la violence routière. Les petits excès de vitesse pourraient bientôt ne plus vous coûter un point sur votre permis de conduire. On parle des dépassements jusqu'à 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. William Molinier, la réflexion est en cours au ministère de l'Intérieur.
Oui, et c'est une question sensible. Les arguments des automobilistes se heurtent régulièrement à ceux des associations de victimes de la route. Selon nos informations, le ministère de l'Intérieur travaille à modifier la sanction sur les petits dépassements de vitesse, ceux qui sont inférieurs à 5 km/h. Ce sont les plus nombreux, plus de 7 millions de contraventions dressées en 2020, soit 58% de l'ensemble des excès de vitesse constatés par les radars. Le retrait d'un point de permis pour cette infraction serait donc amené à être supprimé. Évidemment pas l'amende de 68 €, précise-t-on, place Beauvau. En contrepartie, le ministère de l'Intérieur souhaite mieux lutter contre les fraudes, notamment pour empêcher de déclarer faussement un autre conducteur à sa place. Tout cela est en cours de réflexion, poursuit une source gouvernementale, comme la numérisation de la carte grise et du permis de conduire pour connaître le nombre de points en temps réel sur son smartphone. Cette réforme pourrait voir le jour d'ici 2 ans.
William Molinier, prudence en tout cas sur la route. Vous serez très nombreux à la partager pour ce long week-end de l'Ascension. Comme ce mercredi, la journée de demain est classée rouge sur toute la France dans le sens des départs. Attendez-vous aussi à des contrôles de police renforcés. Stéphane Place a déjà pu le vérifier aujourd'hui sur l'autoroute A63 en direction du bassin d'Arcachon.
Ici, sur l'aire de repos de Sestas, la police a enchaîné les contrôles. L'autoroute A63 en direction du bassin d'Arcachon et de la frontière espagnole est restée très chargée toute la journée. Beaucoup de familles qui veulent profiter de ce week-end prolongé, bien entendu, mais aussi de nombreux routiers. Alors, pas question pour les CRS de laisser passer les comportements dangereux.
Vous avez vu la vitesse à laquelle vous avez roulé sur la boîte d'accès ?
Vous n'avez pas l'impression de rouler un peu vite ? La boîte d'accès, c'est ce qui permet d'accéder à l'autoroute. Vous êtes pressé ? Vous avez vu, c'est chargé.
C'est avant tout pour la sécurité, je pense, des automobilistes. C'est vrai qu'on n'a qu'une vie et bon, des fois, il vaut mieux être en retard dans celle-ci qu'en avance dans l'autre.
La vitesse, mais pas seulement. Le capitaine Lionel Vigouroux de la CRS autoroutière Aquitaine.
Les comportements un peu dangereux, les changements de direction sans s'assurer du danger, les vitesses excessives, les non-respect de distance de sécurité et bien sûr, après, tout ce qui va être les conduites addictives, donc alcoolémie et usage de stupéfiants. C'est un week-end, surtout là avec le pont, un week-end très long. C'est chargé sur les autoroutes et du coup, il y a plus de risques d'accidents, donc plus de travail pour nous.
Et pas moins de 20 dispositifs de contrôle comme celui-ci vont être déployés dans tout le secteur de la région bordelaise par les CRS jusqu'à dimanche. Sestas, Stéphane Place, Europe 1.
La situation en Ukraine, l'est du pays sous le rouleau compresseur russe. Les combats se rapprochent maintenant de Severodonetsk où la situation est très difficile selon le gouverneur. La ville est bombardée sans interruption tandis qu'au forum de Davos en Suisse, le chef de la diplomatie ukrainienne accuse l'OTAN de ne strictement rien faire contre l'invasion russe. L'Ukraine dénonce également une violation flagrante de son intégrité territoriale dans le sud du pays. Moscou va permettre aux Ukrainiens de Zaporijja et de Kherson d'obtenir des passeports russes, un octroi forcé, conclut Kiev, et une nouvelle preuve de l'objectif criminel de cette guerre. 7 cas de variole du singe en France alors qu'aucun de ses patients ne revenait de voyage. Brigitte Bourguignon visitait aujourd'hui l'Institut Pasteur. La nouvelle ministre de la Santé en a profité pour faire un point sur cette variole du singe.
À l'heure où nous nous parlons, il y a 7 cas avérés et 2 qui ont été d'ailleurs infirmés, qui n'étaient finalement que des varicelles. Donc il faut se le dire, cette maladie dans la majeure partie est bénigne. Nous avons entendu aussi parler du vaccin qui pourrait éventuellement être fait sur les personnes contact, ce que nous leur proposerons n'étant rien obligatoire. Les stocks sont parfaits pour l'instant, je ne veux pas vous en dire plus là-dessus. Ce n'est pas un diagnostic alarmant du tout. Voilà, on est aujourd'hui dans une situation qui est maîtrisée, qui est identifiée et nous allons continuer bien sûr à surveiller cette situation comme les autres pays européens.
Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, 7 cas de variole du singe en France, mais déjà un total de 59 cas positifs chez nos voisins espagnols.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Et bonsoir Cédric Chasseur.
Bonsoir Alexandre.
En direct de Roland-Garros, Cédric, on va commencer avec les matchs en cours hein, et notamment ce duel sur le court Philippe Châtrier entre l'Espagnol Rafael Nadal et le Français Corentin Moutet.
Oui, Corentin Moutet face à son idole de toujours, Rafael Nadal. Et pour l'instant, l'Espagnol est en grande forme. Il a remporté la première manche 6 jeux à 3 et il mène 4 jeux à 1 dans la deuxième manche. Il déroule l'Espagnol Rafael Nadal sur ce court Philippe Châtrier. Une bonne nouvelle tout de même pour le clan français avec la victoire il y a quelques minutes sur le court Simone Mathieu de Diane Paris qui a battu la colombienne Camila Osorio 6-3-6-3. On va faire le point tout à l'heure, mais c'est la seule victoire française de la journée pour l'instant.
Et Cédric Chasseur, une journée qui aura aussi donné du fil à retordre aux têtes d'affiche dans le tableau masculin.
Oui, on a failli vivre une hécatombe, ils sont finalement tous là, ou presque. Celui qui s'en est le mieux sorti, c'est le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui s'impose en 3-7 face au Slovaque Alex Molkan. Mais pour le reste, que ce fut poussif, la tête de série numéro 3 Alexandre Zverev, mené 2-7-0 par l'Argentin Sébastien Baez, s'est finalement imposé en 5 manches. Même chose pour le prodige espagnol Carlos Alcaraz qui a sauvé une balle de match dans le 4ème set face à Albert Ramos-Vinolas avant de l'emporter dans la manche décisive. Et au bout de 4h34 de match, record en carrière pour Alcaraz, qui, vous allez l'entendre, a aimé le soutien du public sur le court Simone Mathieu.
Je suis tellement content de ma performance aujourd'hui, d'avoir vécu ces émotions devant vous tous. J'ai eu l'impression de jouer à la maison. J'ai senti votre soutien du premier au dernier point, de la première à la dernière balle. C'était une atmosphère incroyable. Cela n'aurait pas été possible de remporter ce match si vous ne m'aviez pas supporté depuis le début.
Carlos Alcaraz qui affrontera au prochain tour l'Américain Sébastien Corda, tombeur en trois manches du Français Richard Gasquet.
Et Richard Gasquet qui n'est d'ailleurs pas le seul Français à être tombé aujourd'hui.
Non, c'est un peu la soupe à la grimace. Même Grégoire Barrère a été battu par le géant américain John Isner en 4-7. Défaite aussi pour Elsa Jacquemot, 19 ans, battue 6-1-7-6 par l'Allemande Angélique Kerber. Dans un match plus accroché que ne le dit le score, Elsa Jacquemot qui racontait après le match sa découverte du court Philippe Châtrier qu'elle foulait pour la première fois.
De rentrer sur ce court et tout, c'était mais magique. Le début de match, même le premier set, jusqu'à 2-0, ça a été difficile pour moi parce que j'ai eu pas mal d'occasions de marquer des jeux. Et cette sensation, quand t'es sur le court et que le court est immense et super grand, il y a des personnes, il y a plein de personnes, et que t'arrives pas à marquer les jeux, c'est vraiment très dur. Et j'ai pas lâché, je me suis dit bats-toi jusqu'au bout. C'est pas passé loin dans le tie-break, mais je suis contente de m'être battue.
Voilà, Elsa Jacquemot. Et pour finir, au rayon des mauvaises nouvelles en double, la mauvaise blague belge du jour de la paire Pierre-Hugerbert, Nicolas Mahut, tenant du titre ici à Roland-Garros et tête de série numéro 3, qui est tombé dès le premier tour, éliminé en trois manches par le duo du plat pays, Sander Gil et Joran Vliegen.
Merci pour ce point très complet en direct de Roland-Garros, Cédric Chasseur pour Europe 1. Le voici, le pont de l'Ascension, le voici, le voilà. On va s'intéresser au temps avec vous, Valérie Darmon. Quel est donc le programme pour ce jeudi?
Eh bien, Alexandre, bien nuageux, surtout du sud-ouest au nord-est, c'est-à-dire Alsace, Lorraine, Bourgogne en matinée, avant que les éclaircies plus ou moins belles ne reviennent l'après-midi. Et là seulement, l'ambiance redeviendra printanière. Dans le sud-est, jusqu'en Rhône-Alpes, le soleil domine souvent, mais les nuages doublés d'orages finissent par bourgeonner sur les reliefs. Côte de la Manche et Pays Basque, vous restez dans la grisaille toute la journée. Les températures sont en hausse dans l'après-midi. Elles seront comprises entre 17 et 22 au nord, entre 22 et 29 au sud. Vendredi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux surtout. Nuages au nord, soleil au sud, sous forme d'éclaircies. Samedi et dimanche, le soleil brille partout, pas de jaloux. C'est la plus belle journée de la semaine pour samedi. Et les températures cette fois seront comprises entre 16 et 23 au nord et entre 24 et 30 au sud.
Merci Valérie Darmon. On fera un nouveau point météo avec vous à minuit sur Europe 1.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street avec Didier Hamo. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui tente un nouveau rebond dans un marché toujours aussi fébrile.
Oui, beaucoup d'hésitations hein, avec une grande irrégularité des marchés en ce moment. Le Dow Jones reprend effectivement 0,6%. 32 121 points. Le Nasdaq remonte de 1,5%, 11 434 points. Beaucoup de volatilité, comme on dit, sur les valeurs de technologie. En particulier, ça remonte sur Tesla qui reprend près de 5%, 658 $. Amazon, plus 2,5%. Microsoft, c'est moins spectaculaire, plus 1% avec Facebook. On est même stable sur Apple et Google. En revanche, Snap, c'était la grande victime d'hier avec une chute de plus de 40%. Eh bien, Snap, ce soir, remonte de 10%. Donc, beaucoup de fébrilité sur les marchés. En revanche, ça reste très ferme sur le pétrole qui grimpe encore, 111 $ le baril, alors que les stocks continuent de baisser. Et ça donne Exxon, le géant pétrolier, en hausse encore de 2% à 96,30 $, et Chevron qui gagne 1,6%. L'euro, lui, revient un cran en arrière, 1,0670 face au dollar.
La Bourse de Paris a repris un peu de hauteur. Elle est de retour proche des 6300 points.
Oui, ici aussi, hein, pas mal de yo-yo. Le CAC 40 a regagné effectivement 0,73%. 6298 points exactement après sa baisse d'hier. Les secteurs les plus sensibles à la conjoncture économique remontent, à l'image de l'automobile, Faurecia qui reprend 6%, Stellantis plus 1,8%, Renault plus 2,2% à 24,39 €. Renault qui continue de travailler sur la scission du groupe, faisant la part belle à l'électrique. Et puis le secteur pétrolier, donc, dans le sillage du baril, remonte. Technip, plus 5%, Total, plus 3% après son assemblée générale très mouvementée aujourd'hui. Et puis Vallourec reprend 0,8%, 13,94 € ce soir.
Exception du jour, Didier, le titre Sodexo qui n'a pas suivi le mouvement de hausse du marché.
Moins 5%, forte baisse, 68,26 €. Le groupe Sodexo a renoncé à ouvrir le capital de son activité Service Avantage. En attendant une nouvelle feuille de route pour cette activité, le titre recule de 5% ce soir. Les autres places financières remontent. Le DAX, plus 0,6% à Francfort. Bruxelles, plus 0,5%. Madrid reprend 1,5% avec Milan. Et donc, le CAC 40 a regagné 0,73%, 6298 points.
Merci Didier Hamot. L'invité politique ce soir sur Europe 1, Jonas Haddad. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidat Les Républicains aux législatives dans la deuxième circonscription de Seine-Maritime. Vous êtes aussi conseiller régional de Normandie et ex-porte-parole de Valérie Pécresse. Ma première question, Jonas Haddad, l'affaire Damien Abad hein, qui embarrasse le gouvernement, le ministre des Solidarités, je le rappelle, accusé de viol par deux femmes et qui se dit innocent. Beaucoup de responsables de l'opposition, on les a entendus, hein, appellent à sa démission, mais pas chez Les Républicains. Vous n'appelez pas à la démission de Damien Abad?
Non, d'abord parce que en réalité, Damien Abad, pour l'instant, de ce que je crois comprendre, et j'ai vu la décision du parquet de ne pas rouvrir d'enquête, pour l'instant, il y a eu des plaintes qui ont été classées sans suite. Donc à un moment, il faut aussi faire confiance à la justice de son pays, mais je vois bien ce qui se passe, c'est qu'en réalité, pourquoi il y a un tel climat autour de cette affaire? Parce que depuis la nomination du gouvernement, si je peux reprendre cette métaphore, la fusée n'arrive pas à décoller. On a eu la polémique avec Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation. Là, on a cela avec Damien Abad, Elisabeth Borne qui vient plutôt de la gauche. Et dans le fond, nos auditeurs sentent bien. Vous savez, le dimanche soir de l'élection, personne n'avait d'enthousiasme. Il n'y avait pas de climat de joie. On n'a pas eu, comme à chaque élection présidentielle, une effusion dans les rues dans lesquelles les gens se disaient heureux d'avoir un nouveau gouvernement. On sent bien que ce gouvernement ne décolle pas. Alors effectivement, dès qu'il y a des affaires de cet ordre-là, ça prend des proportions assez incroyables.
Alors, vous n'êtes pas en train de dire que le gouvernement utilise à dessein cette affaire Damien Abad pour expliquer l'absence de, pas de sérénité, mais en tout cas d'enthousiasme, comme vous le dites, autour de sa formation, autour de sa première feuille de route?
Non, je pense que le gouvernement il fait face à ces scandales parce qu'en réalité, la ligne de fracture et les positions de ce gouvernement ne sont pas claires. C'est-à-dire, vous savez, on avait notamment, je me souviens à l'époque de Nicolas Sarkozy ou même de François Hollande, on savait très bien qu'une fois que le gouvernement était nommé, il y avait par exemple, on appelait ça les 100 jours, et dans les 100 jours, voilà les grands chantiers qu'il fallait mener, et on savait quel cap était donné. Là, personne n'est en capacité de nous le dire. Quand vous avez d'un côté Éric Dupond-Moretti qui est reconduit, et Gérald Darmanin, et puis de l'autre côté Pap Ndiaye, vous ne savez pas de quel côté ça tire. Voilà. Quand vous avez été soutenu à la fois par Delanoë, Guigou, mais aussi Éric Woerth, de quel côté tout cela va tomber? Donc c'est pour ça que nous, dans le cadre des élections législatives, on veut marquer ce quinquennat pour lui donner une majorité qui soit de droite. Mmh.
Voilà. Permettez-moi de revenir sur Damien Abad un instant, Jonas Haddad. C'est presque paradoxal la retenue dont vous faites preuve quand on sait combien la colère est grande chez les Républicains d'avoir vu Damien Abad quitter le navire hein, après avoir longtemps laissé planer le doute, et tout cela pour entrer dans le gouvernement.
Oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'on considère qu'une personne s'est mal comportée d'un point de vue politique, parce que c'est comme le patron des députés LR qui quitte ses troupes en pleine campagne, au sens militaire du terme. Ce n'est pas pour ça qu'il faut commencer à brader les valeurs les plus importantes, à savoir le respect de la justice, le respect de l'équilibre des enquêtes, etc. Moi, vous voyez...
De la présomption d'innocence.
De la présomption d'innocence. À côté de ça, par exemple, vous voyez, je suis très engagé en tant qu'avocat dans les violences faites aux femmes. Je ne veux pas mettre de signe égal entre quelqu'un qui a eu une plainte qui a été classée sans suite et des gens qui sont actuellement mis en examen. On ne peut pas tout mélanger. Voilà. Alors, bien évidemment, on pourrait lui taper dessus, mais ce n'est pas à notre honneur.
En tant qu'avocat, Jonas Haddad, vous entendez certainement ce message. C'est un tweet, en réalité, de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui s'étonne de cette décision du parquet de Paris de ne pas ouvrir d'enquête, sachant, dit cet observatoire, qu'il est assez courant que des enquêtes préliminaires soient ouvertes, même lorsque les témoignages sont anonymes.
Oui, mais on ne peut pas substituer un observatoire à la justice. C'est la base de notre démocratie. Je ne sais pas qui a choisi cet observatoire, je ne sais pas quelle est sa formation, je ne sais pas s'il y a des garanties d'indépendance, ils n'obéissent à aucune procédure. Donc moi, je suis désolé. Vous voyez, on est républicain et je considère que la justice, ça a de la valeur. Et pourtant, Dieu sait que la justice ne nous a pas épargnés parfois. Vous voyez, quand on a eu les affaires Sarkozy, quand les affaires Fillon, certains ont senti une forme d'acharnement. Mais pardon, c'est la justice de notre pays. Et un observatoire, c'est très bien, ça a son utilité, mais son utilité, ce n'est pas de se substituer à nos institutions judiciaires.
Sur l'action du gouvernement, Jonas Haddad, première urgence, pouvoir d'achat, les choix qui sont faits pour améliorer les fins de mois des Français, sont-ils les bons ?
Je ne trouve pas, parce qu'en fait, il y a des choix qui peuvent être intéressants sur le court terme, parce qu'on sent qu'il y a une forme d'étranglement chez les Français. Mais attention, le chèque, la politique du chèque, ça ne fait qu'augmenter l'inflation.
Le chèque alimentaire, oui.
Voilà, on remet, en fait, si vous voulez, de l'inflation, on remet la planche à billets en fonctionnement. Et en plus, en ne faisant pas les économies nécessaires, nous, ce que nous proposons, c'est de réduire les impôts, d'accord, pour qu'on puisse recréer de la valeur dans ce pays et qu'on évite d'avoir une administration qui soit trop importante pour administrer des impôts qui sont prélevés davantage. C'est-à-dire, c'est simple, hein, c'est comme dans un ménage, à un moment, il faut qu'on fasse potentiellement des économies sur certaines choses pour permettre de dégager de l'argent pour des choses qui sont plus nécessaires. Je pense notamment à l'alimentation, dont le coût est en train de flamber, je pense au logement, et je pense notamment à la mobilité, au transport. Le gouvernement nous dit qu'ils font des cadeaux de quelques centimes, alors qu'en réalité, de l'autre côté, on sait très bien que l'État encaisse beaucoup d'argent avec les taxes sur le carburant.
Vous avez été porte-parole de Valérie Pécresse, hein. On s'en souvient de son score à la présidentielle, 4,8%. Et pourtant, le patron de LR, hein, Christian Jacob, se dit optimiste pour ces législatives. Vous croyez à un rebond, vous aussi, Jonas Haddad ?
Bah, évidemment. Vous savez, je suis dans une région en Normandie dans laquelle Hervé Morin, il fait 45%. Donc entre 45% et 4,5%, il y a de la marge.
Hervé Morin qui est votre soutien hein, également.
Et Hervé Morin qui est un de nos soutiens, ouais, qui est lui du centre droit. Ouais. Il y a beaucoup de marge. Et cette marge, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il existe dans ce pays un électorat, allez, je dirais de droite et du centre, qui n'est pas parti. Simplement, il y a eu une forme de vote utile à l'occasion de l'élection présidentielle, avec une campagne de notre côté qui n'a pas été formidable. Mais les gens savent ce qu'on fait au niveau législatif. Les gens savent très bien, par exemple, que nous sommes des élus locaux qui ont fait en sorte que pendant la crise du Covid, on a apporté des réponses. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Est-ce qu'ils préfèrent des élus locaux qui vont remonter leurs problématiques ou ils préfèrent des députés qu'on n'a pas vus, qu'on ne connaît pas et qui n'ont même pas vu arriver la crise des Gilets jaunes à l'époque ?
Donc vous, c'est un parti de terrain, en fait, Elias. Ce que vous dites, c'est un parti qui bénéficie d'une implantation... qui va vous garantir, pensez-vous, de bons résultats aux législatives, contrairement à ceux de la présidentielle ?
Moi, je pense que l'important, ce n'est pas de garantir des bons résultats pour les Républicains aux législatives, c'est de garantir des bons résultats à nos électeurs. Et nos électeurs, ils savent très bien que lorsqu'on est un élu enraciné dans son territoire, on peut apporter plus de résultats que des députés qui sont juste là, nommés parce qu'ils ont déposé un CV sur Internet.
Merci. Merci Jonas Haddad, président de la fédération LR en Seine-Maritime, candidat dans la deuxième circonscription de Seine-Maritime. Merci.
Merci. Au revoir.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Allez, un coup d'œil sur les unes de la presse pour ce jeudi de l'Ascension, demain 26 mai. Et si on ne perdait plus de points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse? C'est la question que pose aujourd'hui en France, car la réflexion est en cours, en effet. Et on vous en parlait dans le journal, réflexion du ministère de l'Intérieur pour ne plus supprimer de points pour les dépassements sur la route qui seraient inférieurs à 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Il représente, ces excès de vitesse, plus de la moitié de ce type d'infraction. Enquête sur les militants du Burkini, c'est la une du Figaro, sous la pression de l'association Alliance Citoyenne, qui a multiplié les opérations coup de poing, écrit le Figaro. La ville de Grenoble voulait autoriser ce vêtement dans ses piscines. Et bien, saisi par le préfet de l'Isère, le tribunal administratif a suspendu ce soir la décision de la municipalité. Mélenchon, Macron, face à face, c'est la une de Libération. Les meilleurs ennemis, meilleurs qui prend ici tout son sens. Ils sont certes opposés sur leur vision de la France et du monde, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, mais le président et le chef de file des Insoumis s'estiment mutuellement, nous apprend ou nous confirme Libération, qui nous propose demain le récit d'une relation méconnue. Enfin, la une de Ouest France, les défis écologiques à relever pour la France, énergie, biodiversité et agriculture. Il ne manque pas ces défis. Le gouvernement va devoir négocier un virage inédit et périlleux pour faire de notre pays un champion de l'économie zéro carbone. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Pourquoi j'ai cru qu'on était jeudi en vous voyant arriver?
La moindre idée.
C'est peut-être à cause du pont de l'Ascension.
Quoi ?
C'est peut-être à cause du pont de l'Ascension.
C'est possible, parce que vous savez, lorsque les gens partent pour un long week-end, se prélasser, se détendre, nous, les hommes de l'ombre, qui faisons en sorte que ce beau pays reste en contact avec l'information et puis avec toutes sortes de tendances, et bien nous continuons à travailler. Donc,
nous serons sur le pont.
Voilà, exactement.
Sur le pont de l'Ascension.
Exactement. Et peut-être parce que vous avez vu beaucoup de collègues partir.
C'est peut-être ça.
Voilà,
ah,
vous vous êtes dit, ça y est, nous sommes jeudi.
Mais oui, ça doit être ça. Vous avez raison.
Il y a des jours comme ça, vous savez. Vous n'avez pas bu quoi que ce soit ou fumé quoi
pas.
Que ce soit.
Certainement
bon,
pas.
Bon, donc tout va bien.
Tout va bien.
Alors, non mais ça va, écoutez.
Bon bah très bien.
Ça va, je suis plutôt heureux. Moi je vous l'ai dit déjà il y a 2 jours.
Je crois, mais vous émigrez cette semaine, c'est bien.
Ouais,
c'est bien.
J'ai vraiment décidé de dormir 8h30.
Ça c'est la clé. Alors là Olivier, c'est vraiment la clé.
Exactement. Et maintenant, même si je me couche à 3h ou 4h, parce que vous savez combien c'est difficile de trouver le sommeil après ces nuits, en tout cas ces soirées que nous animons.
Ah, le mode interrupteur, ça ne fonctionne pas.
C'est compliqué.
On passe pas de on à off comme ça, non.
Oui. Il y a une espèce d'excitation qui fait que le sommeil vient tard.
Et oui.
Il faut dormir 8h, 8h30.
Donc, vous faites la grasse matinée.
Exactement.
Bien mérité.
Exactement. Alors, une grâce, non, parce que 8h, je dors comme tout à chacun.
Vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai que lorsque je me lève, comme dirait Aurel San, je me lève à l'heure où les gens se couchent, ou c'est l'inverse, je me couche à l'heure où les gens se lèvent.
Je ne peux pas vous suivre, désolé.
Vous n'écoutez pas Aurel San ?
Non.
Vous devriez.
C'est vrai ?
Mm-hmm.
Bon, écoutez.
Il écrit formidablement bien, et en plus, ce garçon a une capacité à rester vraiment... Il sent bien la température de la société, c'est un vrai poète, non ? J'aime beaucoup. J'ai découvert sur le tard, en plus, donc j'aime beaucoup.
Bon.
Voilà.
Mais écoutez, je suivrai votre conseil, Olivier.
Bah, je vous en prie. Et vous avez bien dormi ?
Bah, toujours, oui.
Bah, ah,
oui,
j'ai attendu votre petit coup de fil, moi. J'étais sur le pont, c'est pour ça que je me suis couché tard.
C'était bon signe.
Bon, pas de troubles.
Non.
Bon, très bien.
Pas cette fois.
Eh bah, écoutez, parfait. Ça ne nous empêche pas de vous retrouver à 23h tout à l'heure.
À 23h.
À tout à l'heure. Ciao.